Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur Radio Okapi. Aujourd'hui, Identité culturelle reçoit les professeurs Abbé Godefroy Oupartho, recteur de l'Université du Lac Albert de Mahagui. Il vient de publier un guide d'apprentissage et de l'initiation à la langue Alour. C'est autour de ces livres que nous allons échanger et aussi de la richesse de cette langue. Je suis Rosalie Zawadi à la présentation de cette émission. À la partie technique, nous sommes avec Pierre Diassinois. Bienvenue à tous.
Radio Okapi à Bounia sur 104.8 FM.
Professeur Godefroy Oupartho, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes en ligne depuis Mahagui, dans la province de l'Ituri. Comme je l'annonçais tantôt, c'est pour parler de votre livre sur l'initiation à la langue Alour. Quelles sont les motivations qui vous ont amené à produire ces livres?
Oui, merci pour m'avoir invité. Je salue tous les auditeurs. Moi, j'ai passé 13 ans en Italie, ce qui m'a amené à obtenir mon doctorat en langue classique et chrétienne. Donc, j'ai fait un peu le latin, le grec. Alors, ça m'a pris un peu de temps. J'ai passé entre-temps un peu de temps pour récolter les moyens de rentrer dans une paroisse. Alors, ça m'a pris au moins 13 ans en Italie. Alors, quand je suis rentré, j'ai intégré réintégré la communauté. On m'a flanqué dans beaucoup de groupes où il y a beaucoup de jeunes. Alors, souvent, quand on fait des échanges avec ces jeunes là-bas en langue, surtout quand c'est écrit, vous vous rendez compte que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas leur langue, donc ils ne savent pas écrire. Il y en a beaucoup qui parlent la langue, mais il y a beaucoup d'expressions dont ils ne connaissent plus le sens, mais surtout quand ils écrivent, vraiment, ça laisse à désirer. Alors, à un certain moment, je suis allé dans les petites bibliothèques personnelles et en échange avec les amis, je suis tombé sur des fascicules qui permettait aux missionnaires qui venaient ici, sans connaître notre langue évidemment, mais ils nous ont évangélisés parce que, à un moment donné, sur base des 7 documents là-bas, ils ont appris la langue. Alors j'aurais bien voulu que ce que nos anciens ont utilisé pour apprendre la langue avec les missionnaires serve aux jeunes d'aujourd'hui qui sont de la culture mais qui malheureusement ne maîtrisent pas leur langue. C'est de là que je suis un peu parti, c'est ça.
Merci beaucoup, professeur. Les livres, il a deux parties. Il y a l'initiation à la langue.
La première partie est dédiée justement, comme vous le dites, à l'apprentissage de la Alour. Nous donnons des premières notions que chacun qui apprend cette langue ici devrait avoir. Nous commençons par, les notions préliminaires, vraiment des conversations usuelles. Par exemple, la salutation le matin. Chez nous, on dit, quand on demande « est-ce que vous êtes sorti ?» En fait, c'est pour dire « est-ce que vous êtes sorti vivant de votre lit ?» Pour dire comment ça va. Alors, « iwok maber », ça c'est au singulier, « iwok maber », on demande si vous êtes bien sorti. C'est donc par ces affaires-là-bas que nous commençons. À mi-journée, on ne dit pas, par exemple, « iwok » pour dire « est-ce que tu es bien sorti ?» Tu t'es bien réveillé ?» Mais on demande comment est-ce que ta journée est en train de se passer. Donc, Iri Omaber ou Uri Omaber au pluriel, est-ce que vous passez bien votre journée? Et vous répondez à Iri Omaber pour dire je vais bien, la journée se passe bien. L'après-midi, on peut demander Urio. Ça devient maintenant le passé parce que Urio au présent, c'est un présent continu, alors que quand on vous demande « Urio » ou « Irio », ça annonce déjà le passé. Donc, c'est avec ces notions là-bas que nous commençons. Et d'autres notions complémentaires comme « Comment ça va ?»« Nenedi », ça veut dire « Comment ça va ?» Et puis, vous répondez « Nedimbe », c'est-à-dire « Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci », des petites choses comme ça. Et puis, ce chapitre est dédié à la lexique grammaticale de la langue. Et à côté de ces notions, nous passons aussi, par exemple, à la foi, un peu des notions des religions chez la Alour. Nous sommes passés aussi aux institutions familiales avec le mariage, la dot. Et cette partie, nous la finissons, évidemment, avec une partie que nous avons dédiée à la maladie, les noms des maladies et au deuil. Ça constitue donc notre première partie.
Professeur, en écoutant la façon dont on se salue dans la langue alour, pouvez-vous nous présenter la langue elle-même? Elle fait partie de quelle catégorie des langues en Afrique?
Alors disons, en Afrique, il y a plusieurs catégories. La langue alour, elle est parlée par les Nilotiques qui font partie de ce grand ensemble. Donc les alours particulièrement, c'est ce peuple qui vient de ce qu'on appelle Bahr El Ghazal. Ça peut être le Soudan, mais il faut savoir qui est le Soudan. Ce n'est pas le Soudan actuel, parce que le Soudan ancien, ça s'étend pratiquement jusqu'à la Nubie, aux frontières avec l'Éthiopie, etc. Ce peuple doit être venu de là. Mais la langue parlée par les Alours fait partie des langues subsahariennes, donc dans les grands groupes de subsahariens. Mais cette langue est, comment dire, plutôt liée au groupe des Nilotes. Et ce groupe ici comprend l'alour du Congo et de l'Ouganda. Mais il y a d'autres langues qui sont, de la même famille. Par exemple, la Choli en Ouganda. Vous trouvez les Luo du Kenya. Et il y a beaucoup de groupes comme ça. Mais les sous-groupes auxquels nous appartenons, l'alour, appartient donc à ces grands ensembles des langues subsahariennes.
Merci beaucoup, professeur Godefroy Ouparto. La deuxième partie de votre livre contient maintenant ce qu'il y a comme les contes qui véhiculent les valeurs, l'éducation au sein de la communauté alour.
Dans la deuxième partie, nous trouvons le premier chapitre qui est réservé aux contes. Le deuxième chapitre, je garde les proverbes. Et puis, à la fin, nous avons les devinettes parce que avec les devinettes, là-bas, ça cultive un peu l'imagination, mais aussi, ça raffine un peu la façon de parler des enfants pour ne pas utiliser des mots trop ordinaires. Donc, c'est ça. Mais pour ceux qui regardent les contes, nous donnons d'abord les titres du conte. Les contes, nous les reprenons en alour, dans la langue. Je crois que c'est le travail prochain qui va me permettre de traduire. Peut-être on aura d'un côté le texte à lourd et en face de la traduction française. Mais le bien que nous avons essayé de faire, c'est qu'à la fin de chaque conte, nous tirons quand même une leçon morale par rapport au conte que nous proposons. J'en ai depuis 35, mais je pense qu'avec le temps, nous pouvons aller à plus de 35 parce que dans les villages, il y a encore des vieillards qui connaissent beaucoup de contes que nous pourrions encore récolter et mettre couché par écrit.
Alors, pouvez-vous partager par exemple un conte et la leçon morale qu'il véhicule?
Je prends le plus court. Il faut connaître quelle est sa force. Le titre en alour, c'est « Neotegomijo », connaître sa force. Alors, on raconte ici que la chèvre fait l'amitié avec ce qui reste dans les pétrins. Quand nous avons pété notre foufou, ce qui reste en dessous comme résidu, en fait, la chèvre fait l'amitié avec cette affaire là-bas. Alors, à un moment donné, la chèvre demande justement à ces résidus, qu'on appelle en alour Oudeyo, allons au-delà de la rivière. Alors, Oudeyo, qui est les résidus du foufou là-bas, c'est qui reste dans le pétrin, après qu'on a déjà sorti la partie du foufou qui est comestible, oui, dit, mais c'est toi qui es plus fort, c'est toi qui es plus grand, c'est toi qui dois me précéder sur l'autre rive. Je vois comment tu passes et puis moi, je vais te suivre. Et la chèvre, évidemment, essaye de passer, et puis, au lieu de passer, il dit, je n'ai pas la force de traverser la rivière, il faut que je puisse manger. Malheureusement, cette amitié n'était pas une amitié vraie. Pour avoir la force de traverser, il fallait que la chèvre se rassasie d'abord. Avec quoi elle va se rassasier? Elle a mangé les oudeyo, c'est-à-dire les résidus du foufou. Mm-hmm. Alors on dit, quand tu fais l'amitié, tu fais des alliances avec les gens, il faut savoir quelle est ta force avant de t'engager avec quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que ça pourrait être celui qui va te tuer, qui va te kidnapper, qui va t'enlever, qui va te faire du mal. C'est un peu ça, la morale de ces contes. Ça, j'ai pris les contes les plus courts. Pour dire aux enfants, en tout cas, attention, quand vous sortez de votre maison, sachez avec qui vous sortez. Il y a un autre conte, par exemple, il vaut mieux être plus intelligent que plus fort.
Oui.
Ça raconte ce qui se passe entre le buffle et les lièvres, qui sont aussi des amis. Alors, le buffle demande au lièvre de l'accompagner dans sa belle famille. Mais partout où ils arrivent, le buffle s'est nourri de la patate, je ne sais pas, des aubergines. Tout ce qui est à côté de la route appartient à la belle famille du buffle. Mais alors le lièvre, comme il est très malin, parce que c'est l'animal le plus malin dans les contes à l'ours, cet animal ici, chaque fois que le buffle est en train de le tromper, ici, on ne peut pas récolter la patate de ma belle famille parce que la belle-mère est très méchante. On peut pas manger les aubergines. Si tu veux, le moins que tu peux faire, c'est récolter, par exemple, les fleurs de ces plantes là-bas. Mais le lièvre, comme il est très malin, à un moment donné, lui aussi, au lieu de cueillir seulement les feuilles, il recueille vraiment les fruits qui nourrissent, qui rassasient. Alors, arrivé tout près de la maison, le buffle pensait qu'il a roulé le lièvre et que le lièvre n'avait donc rien à faire pour se nourrir, avoir la force d'arriver dans la belle famille. Alors que le lièvre, dans sa malignité, avait récolté non pas les fleurs, mais les fruits qu'il fallait pour se nourrir. Et tout près de la maison, quand maintenant le buffle n'avait rien parce que lui le bouffait malignement pour que le lièvre ne voit pas, à un moment donné, le lièvre dit « Bon, maintenant, moi aussi, je vais sortir ce que j'ai dans mon gibecière. » Il sort maintenant tout ce qu'il a à manger. Le buffle se fâche parce qu'il pensait être le plus malin. Mmh. C'est pourquoi la morale ne se compte ici. Quand bien même tu es, je ne sais pas, gaillard, tu es gigantesque par rapport au nain, il ne faut jamais minimiser quelqu'un dans la vie parce que chacun, même s'il est petit, peut avoir, ses malignités pour survivre. Et donc, dans la vie, il faut être plus intelligent, plus malin, plutôt que plus fort. Le buffle est beaucoup plus grand que le lièvre, mais le lièvre l'a eu à la dernière minute à cause de son intelligence et de sa perspicacité.
Merci beaucoup, professeur Godefroy Oupartho, pour ces deux contes. Vous avez dit vous êtes inspiré des documents anciens qui étaient dans les bibliothèques, mais là, vous avez aussi fait recours à des vieux qui racontent ces contes pour l'éducation de la jeunesse.
Oui, oui. Nous avons dû compléter un certain nombre de choses. Ce qui était écrit avec la machine à dactylographie à l'époque, il y a des pages qui n'étaient plus claires. Alors, il fallait contacter les vieux pour essayer de reconstituer ces comptes là-bas, afin d'arriver à ces 35 que nous proposons dans les livres.
À Mahagi, la langue, elle est bien parlée, même par les jeunes?
Oui. En tout cas, Mahagi, sur place, disons que c'est plutôt cosmopolite parce que maintenant, il y a beaucoup de gens de toutes les tribus, de toutes les parties du pays qui habitent ici. Mais la peuplade à l'ours comme telle, quand bien même on est, mixte désormais dans la commune de Mahagi, en tout cas, les enfants qui vivent ici, même les étrangers, ils ont intérêt à connaître cette langue parce que au marché, par exemple, si vous allez avec cette langue, vous êtes traité autrement que quelqu'un qui ne la parle pas. Donc, à Mahagi, et dans les centres et les agglomérations, disons, c'est un peu moins parlé que dans les villages, mais dans tous les villages où vous parlez la lourde, où vous ne parlez pas, et donc vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'accessibilité à tout ce qui se passe dans les villages. Parce que dans les villages, outre aux enfants qui vont à l'école, qui parlent un peu français, on ne parle que à lourde dans les villages d'ici.
Merci beaucoup, professeur. Nous allons prendre une chanson en langue à lourde. Quelle chanson nous proposez-vous et quel est le message de la chanson en question?
La chanson que nous vous proposons est d'un certain Lakidi. Il chante en à lourde, mais c'est un Ougandais. Moi, j'ai aimé cette chanson et je la propose pour l'émission d'aujourd'hui parce que, le titre, c'est Atiye, Poli Atiye, donc je suis encore là. C'est un parent qui dit « Je suis encore là ». La grande leçon que nous trouvons dans cette chanson, c'est que il faut que les enfants respectent les parents tant qu'ils sont en vie. Alors, il faut pas se faire pousser, c'est-à-dire envoyer des forces, par exemple, à l'école. Il faut savoir travailler. Tant que tes parents te donnent des conseils pour aller à l'école, pour travailler, pour apprendre le respect des autres, etc., il faut en tenir compte parce que c'est là qui fait de toi un homme, un garçon, une fille, un adulte qui est responsable. Et donc, écouter les parents, respecter les parents, c'est une source de bénédiction. Ça, c'est une chanson de Lakidi, Poli Atiye, qu'il chante évidemment en alou.
Alive and angry, Lakidi, full of story,
Sharp Finish Records,
I got no time for beef. Awiya kaporu naruturu norineki, wikiberu te makweba, isomu. Toca chala, ti
ke Dime tu ti mungoba Makria ku matie kudu e uo bikoni Toksomu maneli chayu noni Numo kubidwa kidanu imba Kwa piru kwa kadu Ulekpe juri yoru budenki u Limde binu limkadu Upatira nyimba Kwa tie safari Don't forget life is a chani Isomu Ichwalu toka chala Tidmatima ke Kimi tuti mungoba
Écoutez Identité culturelle sur Radio Okapi. Après cette chanson à langue alourd, choix de notre invité, les professeurs Abbé Godefroy Ouparto. Nous allons à présent aborder avec vous, professeur, la sagesse alourd à travers les proverbes dans votre livre.
Oui, nous avons beaucoup de proverbes là. Je crois que nous sommes allés jusqu'à 300 et quelques proverbes. Mmh. Alors... Je veux peut-être donner l'un l'autre, mais pas tout, parce que c'est beaucoup.
Oui.
Le premier proverbe, quand en alour on dit « Bad afoyo chamu botliech ». Donc « Bad afoyo chamu botliech », ça veut dire que les jambons d'un lapin peuvent bouffer la patte d'un éléphant. C'est pour dire, si vous êtes généreux, vous allez par exemple chez un chef de collectivité, vous allez chez une autorité... Un grand plus que vous, avec un petit don, en retour, il vous fait un don plus grand. Mmh. Donc, même si tu as très peu, tu pourrais quand même donner à quelqu'un qui te dépasse parce qu'en retour, il va te donner beaucoup. Moi, comme prêtre, je dirais, ce que nous donnons, le peu que nous donnons de notre misère à Dieu, fait que Dieu nous traite avec grâce et en retour, il nous fait beaucoup de dons, à commencer par la vie, les biens matériels et consorts. Donc, les petits cadeaux comptent. Ça compte donc, ça ne passe jamais inaperçu, ni pour la nature, ni pour Dieu, ni pour ceux qui sont plus grands que nous. Ça, c'est une des premières choses que nous pourrions proposer.
Parce que parfois, peut-être, on pense que si on a moins, on est exempté de la générosité. C'est juste une affaire des personnes nanties.
Et évidemment. Même celui qui cultive seulement les champs, il peut donner un gobelet de haricots, de maïs, je ne sais pas, une poule à quelqu'un. Ce que tu enlèves de ta misère, c'est important pour les autres. Donc, le partage est important. Il faut être généreux, pas garder tout pour soi, quoi.
Voilà. Un autre élément de la sagesse à Lourdes.
Je peux dire « Abamba uyechodukul ». Abamba uyechodukul, donc la gloutonnerie ou la gourmandise a déchiré les groins du porc. Ça, on dit pour quelqu'un, pour s'en prendre à la gourmandise, à la gloutonnerie. Quand on est à table... ou dans la vie en général, il ne faut pas être très glouton. Il faut savoir penser aux autres. Parce que si je mange de façon trop abondante, il faut que je me demande si les autres ont mangé à leur faim. Là aussi, ça rentre dans le cadre de partage et consort. Mais pour moi, donc, ça voudrait dire que à cause de la gloutonnerie, vous voyez les groins du porc être déformés, c'est déchiré, c'est très long. tandis que la bouche de l'homme qui partage n'est pas si large. Mmh. Donc, le partage de nouveau, c'est quelque chose de très important. On peut dire, par exemple, dans la vie, on dit à quelqu'un, Abelupoi Irimbe. Donc, le fou se rend compte des histoires dans son sang, ou traduire ça littéralement. Si nous devions dire ça de façon littérale, nous pouvons dire le fou aussi pressant. Alors, on peut dire ça pour dire que la prudence peut nous permettre d'éviter les désagréments. Dans toutes les situations de la vie, il faut savoir, percevoir les conséquences de nos actes, de nos actions, de nos paroles, etc. Alors, même si on était fou, même le fou pressant, ça veut dire que toi qui as l'intelligence normale, tu devais te rendre compte des conséquences de tes actes, de tes déclarations et de tes comportements. Mmh. Ça, c'est un autre proverbe qu'on peut proposer aux jeunes.
Oui.
Alors, un autre proverbe, par exemple, Adote Tomoleo. L'accusation creuse une rigole sur la tête. Ça, c'est pour dire qu'il ne faut pas être mouchard dans la vie. Mmh. Il ne faut pas poursuivre la vie des autres. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Et puis, il ne faut pas chercher de vaines gloires en accusant et en vendant ses frères. Par exemple, quand on dit Ali Yesho Bongo, Ali Yesho Bongo, les querelles déchirent les habits. À force de se battre, vous pouvez rester nu. Alors, au lieu de se battre, il faut trouver des solutions à l'amiable. Ce n'est pas nécessaire de se faire toujours la guerre dans la vie. Il faut savoir s'arranger entre frères, sœurs, etc. pour qu'il n'y ait pas des querelles, des bagarres, parce que les conséquences, c'est que ça déchire. L'habit, ça peut montrer ce qui couvre notre nudité, mais ça peut aussi dire tout ce qui construit l'harmonie dans la vie. Avec les querelles, on ne sait rien construire de consistant. La guerre de l'Est peut entrer dans ce cadre-là parce qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait discuter. On se voit une vie sous et puis on discute entre frères, on trouve des solutions.
Professeur, merci pour cette riche sagesse à Lourdes que vous partagez à travers les proverbes dans cette langue. Si on devait résumer les grands aspects de la sagesse à Lourdes, qu'est-ce que vous nous diriez?
De façon générale, toute langue propose des modèles de comportement. Alors la Lourdes, c'est un peuple, disons, qui est appelé à être accueillant. C'est un peuple qui n'est pas guerrier. On doit accueillir tout le monde, mais il y a des attitudes comme le respect, par exemple, l'amour du travail, le travail bien fait. Ce sont des choses qui émanent aussi de la langue. Je dirais même les croyances, la religion. C'est vrai, on a toujours pensé que chez les nègres, par exemple, il n'y a pas une religion qui ne soit pas monothéiste. Mais je dirais que chez nous, par exemple, la foi chrétienne rejoint ce que nous, on vivait déjà. Nous croyons en un seul Dieu qu'on appelle Rubanga. Il y a ces dieux là-bas, même si aujourd'hui la tendance est d'appeler Dieu Mungu comme en Swahili, mais le nom de Dieu existe par exemple en Alour. Donc la croyance d'un Dieu créateur de tout, avec les esprits qui existent évidemment à côté, les esprits qui peuvent être bons ou mauvais. Et il y a le village des morts, il y a la vie après la mort. Tout cela, ça entre dans la culture. Et donc, la tradition, la religion, la cuisine, les aspects de la langue même, les attitudes, l'interaction. La langue permet aux gens de cultiver les mêmes idées, d'avoir les mêmes idéaux, de travailler ensemble, de commercialiser, de socialiser, de faire même la politique, de faire les commerces. Ça passe à travers la langue et je retiens donc que la langue, c'est quelque chose de très important. Alors, les valeurs affectives, et même identitaire d'une culture, ça passe justement par la langue. C'est pourquoi je retiens que la langue à Lourdes, pour que nous ne puissions pas être acculturés ou aliénés, doit être apprise par ces peuples qui s'appellent à Lourdes.
Professeur, à part les contes, les proverbes, il y a aussi les devinettes dans votre livre.
Évidemment, oui.
On peut en avoir quelques-unes?
Mais les devinettes sont difficiles à traduire. Hein.
Vous pouvez essayer.
Alors, par exemple, quand on dit Afuro Podo Paramadit, Aguarun Eteniete, Afuro Podo Paramadit, Aguarun Eteniete, c'est pour dire que quand, par exemple, quelqu'un a une plaie qui ne guérit pas, qui a des problèmes dans la vie, il ne touche pas directement au centre de la plaie, mais on commence à soigner la plaie par les à côté. C'est-à-dire, quand on a beaucoup de problèmes dans la vie, peut-être que vous n'allez pas résoudre ça de façon immédiate. Il faut commencer par les petites solutions avant de trouver la grande solution. Il ne faut pas forcer donc la nature en un mot.
Ok. Hein?
Par exemple, quand on dit Agomo Ot Para Medine Umbe, j'ai construit ma maison, mais il n'y a pas de, comment il faut dire, des poteaux. Il n'y a rien qui soutient ces toits là-bas. C'est juste pour dire qu'il y a des saisons où nous récoltons, par exemple, des champignons. Les champignons, c'est une maison qui n'a qu'un seul pilier au milieu là-bas, mais souvent invisible. Par exemple, à Negodano Ikingot Ario, donc j'ai tué quelqu'un entre deux collines. C'est juste pour dire que pour tuer un pou, je ne sais pas, un insecte, il faut mettre au moins deux ongles ensemble. Les deux montagnes, ce sont les deux ongles qui peuvent aider à tuer un insecte, quelque chose de nuisible dans la vie.
Oui.
J'ai envoyé, par exemple, à Orakuru Para, à Rio, au Chidolo Kanam, Ento Gidwogo Ibanga Piolit. J'ai envoyé donc deux colombes au-delà de la mer, mais ils sont rentrés très vite me rejoindre. C'est pour dire que les yeux, par exemple, peuvent apercevoir quelque chose de très loin, mais ils ne partent jamais des chevaux, ça reste toujours sur le corps. Mais ils peuvent regarder loin, sans se rassasier, sans s'abîmer.
Merci beaucoup, professeur, pour nous avoir partagé les contenus de votre livre. Mais vous avez dit que le livre est écrit essentiellement en alour pour les autres communautés qui voudraient un peu bénéficier de la richesse de cette langue. Comment faire?
Et comme je le disais, donc, ça, c'est une première étape. Parce que mon rêve, c'est de continuer à collecter d'autres contes. Il y en a beaucoup dans les villages. Je n'ai pas encore eu suffisamment de temps pour aller compléter les contes. J'ai envie de compléter les contes, mais entre-temps, mon projet, c'est d'avoir donc un nouveau livre avec le même contenu, mais maintenant, nous allons proposer les textes à lourd d'un côté et puis le texte français en face pour permettre aussi à ceux qui ne parlent pas à lourd, qui auraient bien voulu, comment dire, apprendre un peu de la lourde de le faire. Mais ça, ça regarde essentiellement les contes parce que pour ceux qui regardent l'initiation à la langue, cette partie là-bas, c'est accessible à tout le monde parce que, disons, la traduction est immédiate. Par exemple, je ne sais pas, la salutation et consort, nous donnons la lourde et nous traduisons directement en français. La partie qu'il faudra traduire, c'est surtout les contes et les proverbes et les devinettes.
Quelle maison a édité les livres?
Bon, nous avons une presse universitaire, nous n'avons pas beaucoup de moyens. J'ai fini de l'imprimer et de rédiger en Ouganda, à Kampala. Mais sinon, la maison d'édition, disons que c'est notre presse universitaire ici, du lac Albert.
Pour terminer, professeur Abbé Godefroy Oparto, les personnes qui ne sont pas à Maragui, si elles veulent aussi avoir votre livre, comment elles font?
Nous allons, après le vernissage, ouvrir des points de vente à Maragui notamment, dans les paroisses du territoire de Maragui, parce que le diocèse de Maragui-Nioka, ça contient aussi la partie nord où on parle plutôt Kilubara et Kakwa. Mais dans les paroisses où on parle à Lourdes, je crois que nous allons disponibiliser quelques exemplaires. Nous allons ouvrir un centre de vente à Bunia parce que nous avons une grande diaspora à Bunia, à Kisangani. Je crois qu'à Kinshasa, il y a déjà des commandes des amis de Kinshasa. À un moment donné, nous allons voir qui peut vendre ça au niveau de Kinshasa. Mais je crois que Kadema, qui est le carrefour de développement de Maagi, donc le siège social, est là à Gombe. Kinshasa. Nous allons mettre peut-être dans les bureaux de Kadema à Kinshasa pour que les enfants à Lourdes qui ont grandi à Kinshasa, beaucoup ne connaissent pas la Lourdes, puissent commencer à lire, apprendre quelque chose de leur culture d'origine.
C'est ici que prend fin ce numéro du magazine Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous avons parlé du livre du professeur Abbé Godefroy Oparto sur l'initiation à la langue alour. Nous disons merci à notre invité qui a accepté de participer à cette émission à partir des Maagui. Merci également à Pierre Diassinois qui a assuré la prise de son de cette émission. Une émission réalisée sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Rosalie Zawadi. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site radiokapi.net. À très bientôt sur ces ondes de la Radio de la Paix et surtout, portez-vous bien.